Très bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, rebonjour. Enfin, aujourd'hui, on termine un parcours qu'on a commencé il y a quelques semaines. Ce sera donc la troisième et dernière partie d'une série de prédications sur l'histoire de la guérison de l'aveugle né. L'aveugle né, en fait, n'était pas malade. Quand on dit guérison, ça donne l'impression qu'il était bien, il est tombé malade, et hop, Jésus l'a guéri. Absolument pas. Il est né aveugle. On devrait donc parler de l'histoire du miracle de l'aveugle né. L'histoire du signe. Tous les miracles que Jésus accomplit ont un but. Ce ne sont pas les plus spectaculaires, mais ils ont un but. Accomplir les prophéties de l'Ancien Testament et prouver de la sorte que Jésus est bien celui qui était promis, qui était attendu. Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, « Je suis la lumière du monde. » Et c'est dans ce contexte-là qu'il ouvre les yeux de cet homme. Évangile de Jean, chapitre 9. Nous avons vu dans un premier temps le miracle en lui-même. C'est pas cet homme qui a abordé Jésus. Il était là. Et c'est les disciples de Jésus qui disent, mais oh, mais le pauvre bonhomme, oui, mais Seigneur Jésus, mais qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce que ses parents ont fait pour que Dieu le punisse de cette manière? Jean chapitre 9. Et Jésus dira, il n'est pas question de son péché. Mais il est né aveugle pour que, à travers lui, le monde puisse voir les œuvres de Dieu. Jésus lui demande, donc Jésus crache sur la terre, lui fait une mixture, l'applique à ses yeux et lui demande d'aller se laver, se nettoyer dans un lac qui s'appelle Siloé. Jusque-là, cet homme n'avait pas encore vu Jésus de ses yeux, selon le récit. Dans la deuxième prédication, nous avons vu que cet homme qui est revenu et qui a vu pour la première fois, on se serait attendu à une fête, une réjouissance. Quel miracle! Et bizarrement, on a l'impression de se retrouver dans une cour de justice, comme un procès. Il est sommé de s'expliquer. Mais qui t'a fait ça? Et même, est-ce que tu étais vraiment aveugle? On a vu que les doutes des pharisiens sur ce miracle étaient principalement dus au fait que Jésus accomplit ce miracle un jour de Shabbat. Et nous avions fait un excursus, c'est-à-dire on a fait un détour un peu long, mais qui m'a semblé important. On s'est demandé, mais pour nous chrétiens, finalement le Shabbat, est-ce qu'on doit le respecter? Parce que attention, l'Ancien Testament nous dit que le Shabbat est fondamental. Et Dieu même dit, respectez mon Shabbat à perpétuité. C'est bien ce qu'on avait vu l'autre fois, hein, pour ceux qui étaient là. Nous avons vu aussi que Dieu avait dit la même chose pour la circoncision. Et pourtant, la Bible nous dit clairement qu'il n'est plus question d'être circoncis ou pas. Ce qui compte désormais, c'est la circoncision du cœur. Dieu est souverain et libre d'abolir ce qu'il a lui-même institué. Du reste, ce n'est pas une abolition. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'était qu'un signe. Le vrai Shabbat est pour celui qui se repose en Jésus-Christ. Et nous avons lu Colossiens chapitre 2, où l'apôtre Paul nous dit clairement que désormais, dans le régime de la grâce inaugurée par Jésus-Christ, nous ne sommes plus soumis à des lunes, à des jours, à des Shabbats. Désormais, nous marchons dans la grâce de Dieu. Amen. Nous avons vu que les questions dont est criblé cet homme pouvaient se résumer en deux questions. Les pharisiens lui demandent, mais au fait, toi, dis-nous, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Et on voit qu'à plusieurs reprises, il est obligé de réexpliquer. Mais je vous dis encore, je vous explique. Il a appliqué de la boue, il m'a dit d'aller me laver. Et puis, ben, je vois. Je ne vais pas vous l'expliquer quand même en chinois. On voit qu'il commençait à s'agacer un peu, hein, pour ceux qui se souviennent. Et j'avais profité pour nous poser cette question à chacun d'entre nous. Un chrétien doit pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Première question. La deuxième question, c'était de la part de ces pharisiens. Oui, mais toi, que dis-tu de ce Jésus-là? Toi, qu'est-ce que t'en dis? Qui il est pour toi? Et on a vu qu'il y avait une évolution dans les réponses de cet ancien aveugle. Au début, il a dit, oui, cet homme nommé Jésus, puisque je ne l'ai pas vu, mais c'est lui qui m'a guéri. Et après, il osait dire, oui, mais en fait, je pense que c'est un prophète. Verset 17. Et au verset 33, il dira, mais s'il ne venait pas de Dieu, il n'aurait pas pu faire tout ça. Donc cet homme, donc Jésus pour cet homme, vient de Dieu. C'est important de se rappeler que tout ça, c'est dans un contexte de conflit. On ne va pas le lire parce qu'on n'a pas le temps, mais pour les pharisiens, Jésus ne pouvait pas du tout être un prophète. Pour quelle raison, entre autres? Parce qu'il vient de Galilée. Et de Galilée, ils diront en Jean chapitre 7, verset 52, rien de bon ne peut sortir de la Galilée. Il ne peut pas être prophète. Ils diront, contrairement à cet homme miraculé qui dit, mais oui, mais Jésus vient certainement de Dieu. Ils diront en Jean chapitre 8, au verset 48, ce Jésus est un Samaritain. Il a même en lui un démon. Voyez la différence entre les pharisiens qui disent, ce Jésus ne peut pas être un prophète, c'est impossible. Et même, il a un démon. Et cet homme qui dit, c'est un prophète. Il vient de Dieu. Jean chapitre 9, on lira à partir du verset 25 jusqu'à la fin du chapitre. Jésus a appris qu'il l'avait expulsé. Donc les pharisiens ont fini par insulter et a expulsé cet homme. Jésus a appris donc qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Ça, c'est dans la seconde. J'étais un peu surpris de voir que dans la semeur, c'est marqué « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Nous allons détailler ça tout à l'heure. « Crois-tu au Fils de Dieu ? Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il lui répondit, « Qui est-ce ? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit, « Tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. « Je crois, Seigneur, » déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent, « Serions-nous par hasard nous aussi des aveugles ?»« Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez. Aussi, votre culpabilité reste entière. » Amen. Dans toute prédication de l'Évangile, comme une prédication sur cette histoire, il faut retenir le point clé et décisif. Tout ce qu'on a dit pendant les deux premiers messages ne sont qu'une introduction. Ce qui est important à retenir pour Jésus-Christ, c'est ce qu'on vient de lire ici. Le face-à-face avec cet homme que Jésus a guéri, ou en tout cas, le face-à-face avec cet homme pour qui Jésus a accompli un miracle. Ce dialogue-là, c'est la première fois qu'il survient dans l'histoire. Jusque-là, Jésus a parlé à ses disciples. Il a parlé à cet homme en lui disant, va, mais il n'y a pas eu de dialogue. Et cet homme lui-même a parlé aux pharisiens et tout ça. Mais là, c'est le face-à-face. Cet homme est expulsé. Et Jésus l'accueille et l'interpelle. Cette fois-ci, Jésus va le trouver et lui demande une question. Une. Pas beaucoup de discours. Crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de l'homme? Voici la clé de tout le texte. Tout ça a servi à Jésus à ça. Ce n'est pas les yeux qui intéressent Jésus. C'est le cœur. Après tout ce que tu as vécu, cette opposition, tu as défendu Jésus, tu m'as défendu, c'est très bien, waouh, c'est super. Voici ma question qui t'est adressée. Crois-tu au Fils de Dieu? Oh oui, Seigneur, dis-moi, je veux bien croire en lui. Et là, Jésus se révèle dans sa personne. C'est moi qui te parle maintenant. Voici donc ce texte majeur de l'évangile où Jésus se révèle comme étant le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Et c'est le premier point clé dont il nous faut parler de ce texte. La révélation de Jésus-Christ. C'est à des gens simples et même méprisés comme cet homme que Jésus révèle cette immense vérité. Il est la lumière du monde. C'est lui le Fils de Dieu. Contrairement à ce qu'on pouvait voir des prophètes, des grands hommes de Dieu, avant ou même après Jésus, Jésus est vraiment différent. On le voit déjà par sa question. En gros, ce que Jésus demande, c'est « Crois-tu en moi ?» Ça, c'est vraiment nouveau. Parce que c'est pas « Je crois comme si, c'est pas moi, je crois qu'il va pleuvoir demain. » Non, non, c'est la question de la foi. Est-ce que tu as foi en moi? Est-ce que tu as confiance en moi? Tous les autres hommes de Dieu disent, nous invitaient et invitaient le peuple à croire en Dieu. Mais lui, Jésus, il dit, est-ce que tu crois en moi? Et on voit que l'homme le comprend bien, se prosterne comme on l'a lu, et Jésus ne le reprend pas. Tous les autres hommes dans la Bible devant qui d'autres se sont prosternés ont été scandalisés. Oh là là, lève-toi vite! Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je viens t'apporter la parole de Dieu. C'est devant Dieu qu'il faut se prosterner. Jésus, dans ce texte, a l'air de se prendre pour Dieu. Et c'est ça que j'aimerais qu'on commence par parcourir un peu en ce matin. Jésus se présente comme le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Mais dans son attitude, crois en moi, et dans l'attitude de cet homme, il n'y a pas d'ambiguïté. Jésus se prend pour Dieu. Et si on va le chapitre suivant, Jean chapitre 10 au verset 33, les Juifs l'avaient bien compris. Jean chapitre 10 au verset 33, les Juifs répliquèrent, nous ne voulons pas te tuer pour une bonne action. Oui, tes miracles, c'est bien, nous ça ne nous dérange pas. Mais nous voulons te tuer parce que tu blasphèmes. Et en quoi tu blasphèmes? Car toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. Jean chapitre 10, verset 33. C'est bien ça. Et ils ont vu juste. Jésus se fait passer pour Dieu. Crois en moi, prosterne-toi. Que nous dit la Bible sur cette question? J'aimerais là aussi faire un excursus, même si le temps passe bien vite. Parce que, à notre grande surprise aujourd'hui, on voit que cette question de la divinité de Jésus, elle devient épineuse. Et même l'autre fois, je lisais un texte d'un prédicateur, pourtant que j'aime bien, c'est un réformé, Louis Pernot, que j'écoute de temps en temps sur Fréquence Protestante, dont vous dit quelqu'un qui a de l'audience, qui semblait relativiser. Jésus, pour ceux qui veulent, il est Dieu, pour ceux qui ne veulent pas, eh bien, c'est ainsi. Ouh là là, ça c'est vraiment c'est des choses. J'aime jamais dans ma vie les choses qui, dans la parole de Dieu, sont floues. Franchement, je préfère dire je ne sais pas. C'est mieux. parce que vraiment ça me paraît douteux. Et donc là, j'étais quand même fort déçu. J'aimerais vraiment qu'on puisse, à la fin de ce message, en être convaincu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et du reste, frères et sœurs, s'il ne l'était pas, on serait vraiment ici dans cette église des sacrés blasphémateurs. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On prie Jésus. C'est ce qu'on a chanté. Jésus, je t'adore. Quand on prie Jésus. Donc s'il n'est pas Dieu, on adresse nos prières à quelqu'un d'autre que Dieu. Quelle terrible erreur. Si Jésus n'était pas Dieu, vers qui faire monter notre reconnaissance? Un peu à Dieu qui a tout planifié, et aussi un peu à Jésus qui a bien accepté de mourir à la croix. On serait un peu partagé. Non, pour la parole de Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Il a dit lui-même, en tout cas, il a laissé entendre à Philippe qui a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Il a semblé être un peu surpris en disant, quoi? Tu veux que je te montre le Père? Je suis avec vous depuis tout ce temps et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Il a dit, Dieu et moi, nous sommes un. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est ça, la divinité de Jésus. Les apôtres l'ont aussi déclaré. L'apôtre Paul a dit en Philippiens et même en Colossiens, en Jésus réside toute la plénitude de la divinité. Pas qu'un petit bout, comme s'il lui manquait quelque chose. Et c'est clairement l'apôtre Jean qui, me semble-t-il, a le texte le plus décisif. En 1 Jean, chapitre 5, les versets 13 et 20, tout à la fin de la Bible. 1 Jean, donc c'est le texte qu'on avait déjà lu en atelier de la foi, hein, pour ceux qui y étaient. 1 Jean, chapitre 5, au verset 13, il est dit, « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils, Jésus-Christ. Jusque-là, qu'est-ce qu'on comprend? Jésus est venu révéler Dieu le Père véritable. On ne peut pas les confondre normalement. Jésus est celui qui nous révèle le Dieu véritable. Et comment il conclut? Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Voyez un peu, il a bien commencé par distinguer les deux personnes. Le Fils qui révèle le Père. Et ensuite il dit, bien oui, mais ce Fils en réalité, il est bien le Dieu véritable. Qu'il n'y ait pas dans notre esprit comme quelque chose qui nous gêne. En réalité, moi-même, ça m'a mis en difficulté de longues années après ma conversion, parce que j'essayais de l'imager, de le comprendre selon mes propres codes, de trouver une image. Je n'ai pas vraiment réussi. Du coup, j'ai changé de stratégie. J'ai essayé d'étudier. Est-ce que la parole de Dieu l'affirme avec clarté? Et puisqu'elle l'affirme avec clarté, alors je le crois. Je ne peux pas prétendre bien le comprendre, frères et sœurs. Soyons honnêtes. Mais puisque Dieu l'affirme avec clarté, je le crois. Ce Fils de Dieu est le Dieu véritable. Et c'est pour ça qu'on peut le prier. Parce que c'est ce qu'on fait chaque jour. On peut l'invoquer. On peut nous adresser à lui en sachant que nous nous adressons à notre Dieu. Voici donc la révélation de Dieu. Mais il peut y avoir un autre piège. Le diable est si fort. Une fois qu'on est convaincu que Jésus est Dieu, il est apparu d'autres formes d'hérésie. Certains donc ont fini par douter que Jésus soit homme. Il était mon Dieu. Mais non, attends, il ne va pas mourir à la croix. Non, Jésus est un esprit qui a disparu au moment où cet homme en qui il était a été crucifié. Et donc, nous sommes obligés d'affirmer les deux volets de la même pièce. Jésus-Christ est Dieu. C'est ce que nous avons lu. Et Jésus-Christ est homme, pleinement homme et homme jusqu'au bout. En 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2 au verset 5, 1 Timothée chapitre 2 au verset 5, il est dit, 1 Timothée chapitre 2 verset 5, en effet il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. C'est bien lui qui, en tant qu'homme, est notre médiateur. Jésus se révèle à cet homme miraculé. Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Ou crois-tu au Fils de l'homme? Qu'il n'y a pas là aussi, je fais une petite parenthèse hein, pour être rigoureux, qu'il n'y a pas dans notre esprit une confusion entre Fils de Dieu et Fils de l'homme. Parce que Jésus-Christ s'est révélé comme les deux. On le voit en Matthieu chapitre 26, les versets 63 et 64. Je les lis rapidement, ce n'est pas vraiment notre thème du jour. Chapitre 26, verset 63. Matthieu 26. Hein. Jésus garda le silence. C'est à l'époque de son procès devant le grand conseil. Alors le grand prêtre reprit en disant, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Et là, Jésus lui répondit, verset 64, « Tu l'as dit toi-même. » C'est une manière de dire oui, je suis le Messie, le Fils de Dieu. « De plus, je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » Ce n'est pas gênant pour Jésus de passer du Fils de Dieu au Fils de l'homme. C'est plusieurs facettes de la même personne. Crois-tu au Fils de Dieu? Jésus profite de ce dialogue avec cet homme miraculé pour expliquer sa mission. Et là, il dit, verset 39, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Sur ce, les pharisiens qui se trouvaient à côté, ils se sentent interpellés. « Serons-nous nous aussi des aveugles ? » disent-ils. Jésus répond, verset 41, « Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez. Aussi, votre culpabilité reste entière. » Cette image de lumière, de voir, ne pas voir, jusque-là, elle restait un peu théorique et vague. C'est dans sa réponse aux pharisiens que Jésus nous permet de comprendre un peu plus clairement de quoi il parle. Comme j'ai dit, Jésus n'est pas venu pour ouvrir les yeux naturels. Mais là, il reprend deux fois le même terme dans ce verset 41. C'est le terme de coupable et de culpabilité. Si vous étiez de vrais aveugles, dit Jésus, vous ne seriez pas coupable. Mais vous prétendez que vous voyez. Aussi, votre culpabilité reste entière. Je suis venu dans ce monde pour qu'il y ait un jugement. Voici la mission du Fils de l'homme. Sa mission consiste à être un juge. Il est venu pour un jugement. Et ce jugement, quand je comprends bien ce verset 41, c'est de déclarer qui est coupable et qui n'est pas coupable. Coupable devant qui? Coupable devant Dieu. Jésus dira aux pharisiens, croyez en moi. Si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Jésus est celui qui retire notre culpabilité devant Dieu. J'ai eu envie de prendre une illustration, deux illustrations. Mettons qu'il y ait un éminent médecin qui passe dans la rue, sur la grande place. Un médecin vraiment réputé, qui laisse sa carte de visite à qui veut. Certains prennent la carte de visite parce qu'ils savent qu'ils sont malades. Et deuxièmement, ils croient que cet homme est vraiment médecin et qu'il peut les guérir, n'est-ce pas? D'autres prennent la carte de visite parce qu'ils savent qu'ils sont malades, mais ils ne croient pas qu'ils soient vraiment médecins. Ça nous arrive souvent de prendre des prospectus et puis on les jette à la première poubelle trouvée. Parce qu'on ne croit pas que ça peut nous faire quelque chose. D'autres même préfèrent ne même pas prendre la carte de visite parce qu'ils se disent, tu as beau être médecin de ce que tu veux, mais en fait, moi, je ne suis pas malade. Deuxième exemple. Prenons l'exemple d'un magistrat imposant, important en France, qui passe dans une prison. Eh bien, il est le seul à pouvoir donner à ses prisonniers la grâce, de les gracier pour qu'ils sortent. Certains acceptent la main qu'il tend. Parce qu'ils se disent, ah, ce monsieur-là, il a l'air insignifiant, mais je pense vraiment qu'il peut faire quelque chose pour moi, pauvre prisonnier. Et d'autres refusent, parce qu'ils ne croient pas que cet homme soit vraiment un magistrat aussi important. Ou alors, il peut arriver que d'autres, finalement, ont tellement pris l'habitude, de bonnes habitudes ou des mauvaises habitudes en prison, préfèrent rester dans leur prison et ont construit leur vie dans leur cellule. Voyez, je donne ces deux illustrations pourquoi? Parce que Jésus, ce qui importe pour Jésus, c'est deux choses. Il dit aux pharisiens, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. Jésus révèle que ces pharisiens qui se croyaient vraiment les plus saints aux yeux de Dieu, ils sont coupables. La première œuvre de Jésus, quand il apporte la lumière dans le monde, c'est de nous apporter la vérité sur notre situation en face de Dieu. Et il y a un mot qui ressort, même si nous n'aimons pas l'entendre, c'est un mot qui est coupable. Coupable devant Dieu. À celui qui a compris ça, qui croit que Dieu existe et qu'il est coupable par son péché devant Dieu, encore faut-il qu'il se dise, mais comment m'en sortir? Et c'est là intervient la deuxième chose importante. Il faut croire maintenant que c'est Jésus qui est la solution. Vous voyez un peu? Je suis un peu long, mais c'est important. Avoir pris conscience de son état devant Dieu et avoir la conviction que c'est Jésus seul qui est la réponse. C'est ça que Jésus explique à cet homme et Jésus profite pour l'expliquer aux pharisiens autour. C'est pour ça que Jésus pose cette question qui nous est adressée. Crois-tu au Fils de Dieu? Je ne peux pas poser une autre question dans cette prédication. Je ne peux pas me faire meilleur prédicateur que Jésus. Jésus a posé une question dans ce texte et une seule. Crois-tu au Fils de Dieu? Comme j'ai dit, c'est pas « je crois qu'il va pleuvoir demain », c'est pas ça. Est-ce que j'ai confiance? Est-ce que je crois vraiment qu'il a la vérité, qu'il peut faire quelque chose pour moi? Voilà la question que nous sommes invités à nous poser aujourd'hui. Et ce que j'aime bien dans le texte, c'est que la réponse de cet homme est simple. Pas de blabla non plus. Je crois, Seigneur. Je crois. C'est ça l'évangile. Une fois que j'étais à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, un prof a utilisé une image que j'ai un peu personnalisée pour nous faire comprendre la situation de l'homme face à Dieu. Vraiment, cette image, elle m'a beaucoup touché. Il a pris l'image de deux pays en guerre. On ne le souhaite pas, mais mettons que la France et, je sais pas moi, et la Syrie soient en guerre. Les deux présidents se déclarent la guerre. Eh bien, tout citoyen français se retrouve de fait en situation de guerre contre tout citoyen syrien. Est-ce que vous me suivez là? Parce que le représentant des Syriens a déclaré la guerre au représentant des Français. Même s'il y a des Français qui se disent « Ah, moi, les Syriens, ils m'ont rien fait. » Oui, mais tu es quand même en guerre. Parce que ton président a déclaré la guerre. Et c'est un peu ça l'état de l'homme pécheur. On pense que le péché, c'est d'abord les petits ou grands péchés que nous commettons. Il n'en est pas ainsi, selon la compréhension de Dieu. Nous baignons dans un monde qui est en guerre et en rébellion contre Dieu. Un enfant qui naît aujourd'hui est déjà pécheur. Vous comprenez un peu l'image ? On est dans une situation, dans un monde rebelle face à Dieu. Mais comment faire pour nous en sortir ? Et c'est là où je reprends l'image des deux pays en guerre. Jésus-Christ est mort à la croix pour que nos péchés soient pardonnés et que nous soyons réconciliés avec Dieu. Comment l'appliquer à l'image des deux pays en guerre ? Eh bien, quand je mets ma foi en Jésus-Christ, c'est comme si je change de nationalité. De français que je suis, je deviens par exemple allemand. Si je vois entre l'Allemagne et la France, je pense qu'il n'y aura plus jamais de guerre. Parce que les deux pays ont signé des alliances. Je deviens plus français. Je deviens allemand. Voyez ? Ou plutôt, dans mon exemple, je ne deviens plus syrien, je deviens allemand. Puisque l'Allemagne est en alliance avec la France. Voyez l'exemple ? Ce n'est pas l'exemple qu'il porte, mais c'est vraiment le message qui est derrière. Je change de situation, je change de condition. Je demeure désormais en tant qu'allemand dans une situation où je suis un allié de tous les Français. Et c'est ça que Jésus-Christ a fait pour tous ceux qui placent leur foi en lui. Je suis plus dans un... Je ne vis plus dans un régime en guerre contre Dieu. Je vis dans un régime réconcilié avec Dieu. Alors, en conclusion de ce message, je reprends cette question et j'ajoute une deuxième. As-tu compris ce matin qui est Jésus-Christ ? As-tu compris ce matin qu'est-ce qu'il a fait pour toi ? Deux questions. As-tu compris ? Non. As-tu compris qui est Jésus ? As-tu compris ce qu'il a fait pour toi ? Troisième question, la plus importante, je l'ai dit. Crois-tu en Jésus-Christ ? Daigne le Seigneur nous aider à répondre vraiment comme cet homme. Oui. Je crois. Je vais prier.